de modèle économique de rémunération des livres lors des ventes aux collectivités est rendu possible par cette disposition-là. Le décret le précisera, mais que la seule contrainte finalement que ça impose, c'est de fonder le prix demandé aux collectivités sur ces trois éléments-là. Le contenu de l'offre, les modalités d'accès, les modalités d'usage. Éléments objectifs, qui peuvent être ensuite détaillés dans le décret, et d'interdire ou d'empêcher toute forme d'arbitraire, de négociation qui serait liée par exemple au prestige de l'institution à laquelle on vend des livres numériques, qui serait un petit peu contraire à l'esprit de la loi, mais qui peuvent faire partie de certains modèles économiques actuellement pratiqués par certains fournisseurs de contenu aux bibliothèques, qui par ailleurs sont extrêmement opaques sur leur modèle de prix. L'intérêt également de la loi, c'est d'apporter une certaine transparence, puisque le prix ou le modèle de prix de l'offre doit être rendu public dans des conditions qui seront précisées par décret, et donc ça obligera tout de même les personnes qui s'adressent à des collectivités et qui souhaitent leur proposer des offres de livres numériques de le faire suivant des critères qui sont objectifs, puisque respectant ceux précisés énoncés dans la loi, qui, il me semble, tout de même permettent de prendre en compte la plupart des paramètres qui légitimement permettent de faire des prix différents, et par ailleurs permettront peut-être aux bibliothèques d'avoir des arguments de comparaison, de discussion un peu plus fermes, objectifs, que ceux qui peuvent exister dans des modèles qui se sont développés et dont vous devez entendre parler ici, sur la commercialisation des contenus à destination des bibliothèques universitaires. Donc c'est un petit peu dans ce sens que je plaide, une loi qui n'empêche pas tant que ça les modèles existants et qui par ailleurs apporte une certaine transparence.
Alors pour aller un peu plus loin, effectivement, aujourd'hui il y a vraiment quand même une diversité d'offres et de modèles divergents. On voit effectivement ce qui se passe au niveau des ressources électroniques dans les bibliothèques universitaires, où ça va jusqu'à consommer 30 à 40% des budgets aujourd'hui des bibliothèques universitaires, avec des offres très différentes, où les bibliothèques universitaires n'ont plus la main sur la sélection, c'est-à-dire qu'en fait elles ne peuvent pas faire du pick and choose, hein, comme on en parlait tout à l'heure, mais elles sont obligées d'acheter des bouquets complets alors qu'il n'y a que deux ou trois revues qui les intéressent parmi ces bouquets, d'une part. D'autre part, il n'y a pas forcément de réelle concurrence, puisqu'il y a dans le domaine des ressources électroniques, effectivement, là, des agrégateurs qui se sont imposés sur le marché, Elsevier, qui est incontournable, par exemple, dont on ne peut pas se passer. Et derrière, encore une fois, des modèles très différents. Dans le domaine du livre numérique, il est un peu en train de se passer la même chose aux États-Unis, avec Amazon, qui vient d'ailleurs de proposer à 11 000 bibliothèques américaines la mise à disposition de tablettes Kindle pour exercer le prêt de livres numériques. Est-ce que c'est quelque chose d'imaginable en France? Sous quelle forme et avec quels opérateurs? On sait qu'Amazon envisage d'ouvrir une plateforme en Europe, et donc pas simplement pour vendre des livres papier comme ils le font à l'heure actuelle, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le site d'Amazon Europe vend essentiellement des livres imprimés, ne vend pas ou peu de livres numériques. On pourrait peut-être imaginer, ils ont annoncé leur intention de renforcer leur présence, hein, très, très prochainement. Google a décidé d'installer de son côté un centre opérationnel à Paris, me semble-t-il, également. Donc peut-on imaginer d'avoir dans quelques temps Amazon qui propose également la mise à disposition de Kindle et d'organiser le prêt de livres numériques pour les bibliothèques françaises?
Ben, on verra, pour le moment, ils sont pas là. Hein. Ils sont pas encore là. Bon, je suis pas prophète. On voit ce qui se passe aux États-Unis. Et là, c'est compliqué parce que parfois, il y a des divergences d'intérêts qu'il faut reconnaître. Si vous placez du point de vue de l'intérêt d'une collectivité, elle va chercher. Je vous fais pas une révélation en vous disant que dans les collectivités territoriales, en ce moment, c'est difficile, hein, les budgets. Hein. On n'est plus l'ère des des budgets relativement aisés, c'est terminé pour différentes raisons qui se croisent, la crise financière, la réforme fiscale qui est le vrai moteur de la réforme territoriale et qui enlève de, la, voilà, de l'autonomie fiscale. Donc c'est difficile. Donc on va chercher à avoir le meilleur, le système le plus intéressant. Si vous placez du point de vue d'une politique du livre globale, la suprématie de ces arrivants n'est pas une bonne chose. C'est l'opinion que je donne. Hein. Donc on verra comment se feront les arbitrages. De toute façon, pour les collectivités, normalement, on devrait être dans un contexte de marché public. Alors, le contexte du marché public, on avait quelque chose d'extraordinaire jusqu'ici pour le livre, depuis la loi, la loi sur le droit de prêt, justement, de 2003, c'est qu'on arrive en commission d'appel d'offres, puis on explique aux élus, il n'y a pas de critère de prix. Ah bon ? C'est le seul domaine dans lequel il n'y a aucun critère de prix. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme marge ? Les services. Alors, si c'est les services, ça veut dire que tel fournisseur soumissionnaire dit, ben voilà, je vous vends au même prix que tout le monde, mais je vais vous faire des présentations gratuites, vous avez des conférences, etc. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un détournement de la loi Lang et de la loi de 2003. Hein, voilà. Et du code des marchés aussi. Donc on est dans cette situation-là. Donc c'est pour dire qu'il y a une habitude à ne pas avoir le critère de prix dans ce domaine-là. Ça peut se défendre de continuer à avoir ce critère-là. Pour que les libraires entrent dans ce marché, où on ne les voit pas encore globalement hein, pour les collectivités, il peut y avoir le même raisonnement qui peut être tenu. C'est Rémi qui me disait qu'il y avait une bibliothèque départementale. Oui, voilà. Il y aurait une bibliothèque départementale qui aurait mis dans le même lot livres papier. Même marché, pardon. Ah oui, alors si c'est des lots différents, on est foutu. Il faut que ce soit dans le même lot. Alors c'est pas évident, on verra. Si c'est dans le marché à lot, il peut y avoir des attributions différentes par lot. Bon, on verra. Mais on est vraiment dans le tout début de ça. Alors ensuite, on a le problème des tablettes. Alors le problème des tablettes, c'est intéressant parce que si vous lisez l'article de Livre Hebdo, que je trouve exact, hein, du dernier, je pense, sur le livre numérique, on vous dit, bon ben voilà, ça marche moyen. Il y a un truc qui marche pas mal, c'est le prêt de tablette. Parce qu'on vous dit que à Issy-Moulineau, 200 usagers, alors 200 usagers, c'est petit par rapport à tous les usagers d'Issy-Moulineau. On est sur du marché de niche, de toute façon, hein, pour le moment. Complètement sur du marché de niche. Moi, je dis marché aussi pour les bibliothèques, parce que c'est une façon d'expliquer très simple et imagée. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est extraordinaire. Aucun bibliothécaire n'a imaginé de prêter des baladeurs MP3. Et on prête des tablettes. Ce qui veut dire qu'on est dans un usage naissant et qu'on fait ça presque pour amorcer les usages, pour que les gens essayent, etc. C'est vraiment le cas du livre numérique est tout à fait spécifique dans le très compliqué contexte numérique pour les bibliothèques comme toutes les autres de la chaîne. C'est tout à fait spécifique. C'est beaucoup plus tard. Et ça pose des problèmes très particuliers, et on est encore dans l'enfance, au point de vue commercial, pour le particulier, c'est un marché naissant, pour les bibliothèques aussi, c'est du balbutiement. Alors, les tablettes, c'est pas mal, et les tablettes, vous avez qui remplissent les tablettes avec du... C'est le cas d'Issy-Moulineau, d'ailleurs, avec uniquement des contenus libres de droit, vous en avez qui mettent différents contenus actualisés, etc. Et certains fournisseurs, on peut se procurer des fichiers téléchargeables, et pour remplir... les tablettes, donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. Pour le moment, j'ai vu qui prêtait des tablettes, la DDNB, hein, l'Association pour la diffusion des documents numériques en bibliothèque, et puis en Ile-de-France, le MOTIF, qui est la structure régionale pour livres à la lecture, en gros associée au conseil régional, qui prête des tablettes. Je n'ai pas encore vu, on verra, hein, Amazon le faire, nous verrons ce que ça donne.
Je pense que même si les libraires en France se regroupent, je crois qu'on aura du mal à vous prêter des tablettes. Hein.
Mais par contre, vous pourrez vendre les contenus. Voilà.
Voilà. Alors, au-delà des tablettes, effectivement, les contenus, sous quel format ? Parce qu'il s'agit de donc le format XML, etc. D'accord. Mais à partir de là, est-ce que c'est un accès uniquement sur place ? Est-ce que c'est un accès distant ? Est-ce que c'est un accès via le téléphone portable ? Est-ce que ça fonctionne ou pas ? Est-ce que les bibliothèques sont équipées pour permettre ce type d'usage ? Et de près, via les mobile phones, les nouveaux téléphones portables. On sait que dans les... Là, je vais diversifier mes exemples. Je vais parler de la Corée ou du Japon, où l'usage des téléphones mobiles est beaucoup plus répandu et où ils s'en servent pour lire des mangas dans le train, voire des petites nouvelles adaptées spécifiquement. Est-ce que donc les bibliothèques françaises sont susceptibles de proposer ce type d'usage et comment?
Alors d'abord, je dirais une chose très importante. En général, pour chaque nouveau support, nouveauté, les bibliothèques recommencent l'histoire des bibliothèques. Donc on recommence chaque fois à la préhistoire. Quand vous voyez arriver un nouveau support, on fait une bibliothéconomie préhistorique. C'est-à-dire, on n'en a pas beaucoup, c'est très sélectif et c'est sur place. On a vu ça pour la musique, on a vu ça pour la bande dessinée, on voit tout le temps ça. Alors, le numérique, ça a commencé comme ça, hein. C'est sur place, c'est très sélectif, etc. Bon. Ça ne tient pas la route à terme, parce que une offre numérique des bibliothèques qui ne serait que sur place, ça nous ramènerait du temps de la bibliothèque de consultation. Alors certes, la VPI ne prête pas, mais enfin, bon, c'est une exception. En gros, une bibliothèque prête. Hein. Et donc, l'équivalent du prêt à domicile, comme on dit, voilà, c'est évidemment le service en ligne. C'est pas seulement notre faute, c'est que les offres qu'on a eues au début, c'était uniquement sur place, sur place, sur place. Hein. Grâce aux bibliothèques universitaires qui sont plus avancées dans CR, on a vu se développer les offres en ligne. Bon, moi je donc travaille dans un conseil général. On va commencer cette année à développer une offre pour les personnes du département inscrites dans des bibliothèques. C'est que à distance, toute offre sur place, on l'élimine immédiatement. Hein. C'est clair. Donc, à distance, c'est l'équivalent du service normal de bibliothèque. Alors, à partir de ce moment-là, se pose la question du support. Alors, comme je l'ai dit, il y a le modèle du streaming, on va garder ça comme mot, parce que vous l'utilisez, c'est approximatif, et puis le modèle du téléchargement. Le streaming, ça doit être sur... dont on peut penser que c'est l'avenir, en vision, c'est une supposition, on le voit pour la musique, hein, ça doit être sur tout support, évidemment. Et donc, c'est les ordinateurs portables, et c'est les tablettes, les liseuses, pourquoi pas les smartphones. Alors, le problème du smartphone, c'est quand il y a un usage de masse. On sait qu'il y a une lecture sur le smartphone, il y a une lecture de presse, hein, voilà, il y a une lecture courte, la lecture longue, je ne sais pas. Les mangas, c'est l'édition adaptée. Jusqu'ici, on parlait d'édition adaptée en parlant des différents types de handicap. Là, c'est l'outil nomade qui a son handicap, ça, donc on a une édition adaptée, pourquoi pas. Au fur et à mesure qu'il y aura un usage, évidemment qu'on peut offrir le service. Donc ça, ça pose le problème éventuellement des modèles fermés sur tel fournisseur, etc. On sait très bien qu'il y a ce problème de là. Hein. Tout ce qui est i quelque chose de la maison Macintosh, c'est verrouillé de chez verrouillé, tout est dans la même maison. Bon. Et puis, d'autre part, vous avez ce qui est fichier téléchargeable. Pour moi, on ne peut pas exclure l'un ou l'autre. Vous avez les deux modèles. C'est les deux modèles qui permettent la protection des œuvres, en gros. Hein. C'est ou les DRM ou le streaming. Bon, alors, quelques éditeurs vous permettent du téléchargement sans DRM. Il y en a un qu'on a rencontré dans le train, c'était pas bien, souvenir. M'a donné sa carte, il dit nous c'est sans DRM. Bon, très bien. Hein? Mais ça va être marginal, hein, soyons réalistes, ça va être marginal. Donc il y a les deux. Alors le téléchargement pose le problème de l'interopérabilité qui était, donc Rémi nous rappelait, dans le rapport Patino. Voilà. C'est vrai que nous avons demandé l'interopérabilité. Et les DRM, c'est vrai que c'est pas facile, et tous les modèles ADRM, collègue libraire disait que les ennuis qu'avait eu un libraire de Brest, les bibliothécaires aussi se retrouvent avec renseigner les gens, et c'est un petit peu galère. Voilà.
Pas une position forcément aussi tranchée sur les DRM que vous. Alors, ça dépend ce qu'on entend par... par DRM, parce que je crois qu'on y met vraiment aussi beaucoup de choses derrière ce terme-là. Pour ceux qui sont contre, ils y mettent évidemment des mesures extrêmement strictes qui empêchent ou qui rendent pardon, qui rendent difficile, y compris l'achat en librairie, qui freinent l'achat en librairie. Et en ce sens, c'est vrai que c'est un souci. L'utilisation, même une fois qu'on a acheté le fichier numérique, là, c'est encore plus un souci. Mais il ne faut pas confondre ça avec le droit d'auteur ou ce qui permet de s'assurer que le droit d'auteur est respecté. Et là, il y a des mesures de DRM qui sont probablement plus souples, alors qu'on appelle les DRM sociaux ou sociales, je ne sais pas, qui tiennent au watermarking, au filigranage, qui permettent une traçabilité et qui limiteraient les possibilités de piratage, en tout cas qui n'empêchent pas de copier, mais qui permettent de savoir qui a autorisé la copie et de retrouver du coup s'il y a une trop forte utilisation, une trop forte copie ensuite. De retrouver la personne à la source. Ça, ces DRM-là, si elles ne bloquent pas à la fois la vente pour le libraire, elles ne bloquent pas l'utilisation pour le consommateur, ça me semble important. Ça me semble important, encore une fois, pour protéger le droit d'auteur et deuxièmement, pour s'assurer qu'on aura une sorte de traçabilité de l'usage. Alors, c'est assez facile quand on a un téléchargement une fois et encore, après, que fait l'utilisateur une fois qu'il a téléchargé? Mais c'est encore plus utile si on a des formes très complexes d'abonnement, de gratuit, etc. Les formes fermées ou ouvertes dont parlait Dominique Larry tout à l'heure. Et dans ce sens-là, il me semble qu'il ne faut pas se priver, il ne faut pas rejeter la DRM en tant que telle, parce que sinon, on fait sauter un verrou important pour le droit d'auteur et pour la rémunération de l'ensemble de la chaîne du livre derrière. C'était déjà compliqué dans le livre papier, mais la difficulté va se trouver démultipliée avec le format numérique.
Personnellement, je ne l'achèterai pas pour cette raison-là. Je comprends tout à fait les positions radicales, mais pour cette raison justement de droit d'auteur, à titre personnel, je ne porterai pas ce t-shirt.
Mais si vous pouvez le défendre à titre de l'IABD, ça nous va très bien aussi.
Alors là, disons qu'il y a des positions sur lesquelles l'interassociation, bon, s'il y a divergence, diversité, de même qu'on n'a pas arbitré entre tel modèle, etc., entre le téléchargement et le streaming, je ne sais pas si on a arbitré là-dessus, hein. Bon, ou s'il y aurait un accord, un consensus, ça je ne sais pas. C'est pour ça que je sors mon avis personnel.
La question, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit nous qui allons arbitrer, ni vous bibliothèque, ni libraire, ni auteur. Je ne suis même pas sûr que ce soit les éditeurs d'ailleurs qui... Alors il y a eu un jeu de dupes et un jeu de concurrence au niveau américain qui fait qu'il y a une petite bataille qui a été gagnée par les éditeurs américains vis-à-vis d'Amazon. Je ne sais pas s'ils pourront le faire aussi en France. C'est vrai que ce qui serait dramatique, c'est d'avoir cette multiplication de tablettes de lecture Kindle avec un circuit complètement fermé, voilà. Et donc une mainmise intégrale d'Amazon, que ce soit sur les ventes personnes physiques comme vous et moi, ou aux bibliothèques de lecture publique ou bibliothèques universitaires.
Ça, c'est le danger absolu dans lequel je pense tous on serait coalisé, en tout cas coalisable. Tout système fermé ruine nos diverses professions.
Je voulais savoir justement à propos des accès, de la gestion, c'est quand même assez compliqué pour les bibliothèques. Et est-ce qu'il n'y a pas vocation justement à ce qu'il y ait cette fameuse plateforme interprofessionnelle à l'ouvrir aussi pour les accès aux bibliothèques et concerner, impliquer les libraires dans les modalités d'accès, parce que je vois pas comment les libraires peuvent s'en sortir tout seuls en gérant ça pour les bibliothèques. Enfin, je vois pas, c'est quand même très complexe techniquement, et dans la mesure où il y a un hub interprofessionnel d'Inicom qui s'est mis en place pour la gestion des fichiers numériques entre éditeurs, libraires et en accès lecteur, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ce hub serve aussi pour les accès, pour gérer les accès pour les bibliothèques?
Alors moi, au dernier salon du livre, j'ai assisté à une présentation par immatériel.fr qui était faite pour les libraires. Je me suis glissé dans la salle. Et il proposait une solution qui basée sur le hub d'Inicom, justement. Très, très précisément. Hein. Et là, on voyait clairement le double système, le double modèle économique hein, que j'ai décrit tout à l'heure. Hein, c'était parfaitement clair. Voilà, il se faisait en quelque sorte l'agrégateur pour les libraires qui voulaient vendre aux collectivités. Hein. C'était hein, une session pour les libraires qui voulaient vendre aux collectivités. Voilà. Donc, pour le moment, on a des initiatives diverses et variées. Je ne sais pas si ça peut converger. Et puis le problème des plateformes, il y a ça comme problème de plateforme, et puis il y a pour nous, alors ce qui est un... Mais les libraires ont le même problème. Hein. Encore majoritairement, je crois, on a vu les offres de ressources numériques, alors pas seulement de livres, hein, à distance que peuvent proposer les bibliothèques sur leur portail. Alors c'est gentil, vous avez on a ce qu'on appelle notre PAC, là, le catalogue des collections physiques. Bon, puis après on a les ressources numériques. Puis après on vous dit c'est une plateforme par fournisseur. Alors les livres numériques, vous en avez chez Nouvelle, je ne sais pas, vous en avez aussi chez je sais pas quoi, Bibliomédia, parce qu'ils ont aussi du livre audio, puis il y a aussi tel fournisseur, et à chaque fois on a une fenêtre qui on n'est plus dans notre portail à nous. Hein. De toute façon, on a perdu la propriété, on en a parlé. Il faut s'habituer à perdre la propriété, hein. À rentrer dans la société de l'accès, comme disait Jeremy Rifkin. Mais donc, on a une diversité de. Alors, le pauvre usager là-dedans, à chaque fois, il a un univers différent, il faut qu'il s'identifie de façon différente, on ne s'en sort plus. Alors, du coup, on a des fournisseurs de plateformes qui vous disent payez-nous, bon, un certain nombre de milliers d'euros, et comme ça, je vous unifie la plateforme grâce à mon système technique. Alors, on a le rêve d'une plateforme unique. Elle existe en Allemagne pour les bibliothèques publiques. En Allemagne, il existe E4-7. Qui est une coopérative non lucrative de fourniture aux bibliothèques publiques de livres, de ce qu'on appelle le Filmolux, qui est d'ailleurs un produit allemand, de rayonnage, de tout ça. Ils sont mis dans les ressources numériques et ils ont une plateforme unifiée. Et puis, effectivement, on rêve de ça. Bon, je ne sais pas où ça en est, mais donc la BPI avait fait un voyage, mais avait vu que c'était assez compliqué à transposer en France. Mais bon, voilà, c'est un problème. Pour le moment, une offre commerciale pour nous. Bon, mais c'est une offre assez chère, toutes les bibliothèques peuvent pas se les payer.
C'était une des recommandations du schéma numérique des bibliothèques qui a été publié sous la direction de Bruno Racine. Je ne sais pas si le ministère veut répondre à cette question-là de plateforme d'appui, d'aide, de convergence pour le développement de modèles de prêt de livres numériques dans les bibliothèques.
Je peux apporter quelques éléments que je connais, même si c'est absolument pas mon département qui est sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que les suites du rapport de Bruno Racine sur le schéma numérique des bibliothèques sont un peu au centre des préoccupations du service du livre en ce moment. Au-delà de ça, un chantier auquel je suis associé par le département qui est pilote sur cette question-là, c'est le développement d'une offre ou de plusieurs offres commerciales à destination des bibliothèques, de modèles économiques satisfaisants pour l'ensemble des parties. C'est quelque chose d'assez important, justement. Dans la mesure où, pardon à Dominique, on a vu quand même que dans. Beaucoup de très vite, lorsqu'on a débattu ensemble avec l'IABD de la question de cette loi sur le prix du livre numérique, venait l'expression d'une inadéquation totale de l'offre proposée par le monde de l'édition et par les opérateurs d'agrégation qui sont leurs prestataires actuellement, aux besoins des bibliothèques. Donc c'est un chantier qui reste à mener dans la ligne. Un petit peu des préconisations qu'il y avait dans le rapport de Bruno Racine, un chantier dont je crois pouvoir dire que les éditeurs eux-mêmes sont conscients. On parlait des rencontres nationales de la librairie qui a eu il y a 10 jours, qui se sont terminées par une table ronde l'après-midi sur le numérique, à laquelle participait François Gèze. Et François Gèze a exprimé également, au nom de l'édition, le sentiment d'urgence qui avait avancé véritablement de ce côté-là. Donc c'est vraiment un travail qui sera mené en coordination par le service du livre et de la lecture cette année, mais bon, le message en tout cas est largement entendu on a quelques espoirs. On a avec Fabien Plazenet qui est pilote sur ce dossier, nous avons pris la tâche de la commission numérique du syndicat national de l'édition. François Gèze a relayé ce projet de groupe de travail lors des rencontres nationales de la librairie. Donc je pense qu'on va pouvoir vraiment avancer aussi sur ces questions-là assez rapidement.
D'autres remarques, interventions? Bon, bah, écoutez, y a-t-il des questions dans la salle? Y aurait-il une ou deux questions? Sinon, je pense que nous allons aller lentement, mais sûrement vers la fin de cette rencontre. Alors, pour poursuivre le débat, en attendant, Lamine, donc au sein de l'ANSSI, vous savez qu'il y a un nouveau service qui s'appelle Lamine, la mission innovation pour le numérique. Et donc, qui a ouvert un forum qui s'appelle le Filon. Et dans ce forum, vous allez trouver donc un lieu de débat autour de la loi sur le prix unique du livre numérique et de son suivi. Donc vous pouvez aller dans ce forum, poursuivre le débat, consulter les messages, participer à ce débat pour que celui-ci continue à vivre et à se poursuivre, parce que je pense que nous n'avons pas éludé l'ensemble de la question aujourd'hui, même si nous avons essayé d'en faire un tour assez complet. Et je tiens à remercier vivement tous les intervenants qui ont répondu présents pour cette table ronde, qui ont fait le déplacement donc à plusieurs de Paris, vous l'aurez compris, puisque certains d'entre eux ont pris un train et qu'ils vont reprendre ensemble ce soir. Je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir encore se dire, mais ils vont certainement trouver d'autres sujets de discussion. Mais merci également au SLF d'avoir répondu présent. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous aura permis d'échanger et d'avoir une vision d'ensemble, en tout cas au sein de la chaîne du livre, même s'il a manqué encore une fois le syndicat national de l'édition. Je tiens à remercier également tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette table ronde, hein, donc Sandrine, Laurence, Nicolas, qui ont participé activement à l'organisation de la table ronde. Merci à Christelle Petit aussi pour son soutien et pour l'appui logistique qu'elle a pu nous apporter. Merci à l'ENSIP, bien évidemment, qui a accepté cette proposition donc d'élèves conservateurs et qui nous a permis de dérouler cette table ronde.